Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Côté club, c'est en direct du lundi au vendredi, 22h, 23h. Le rendez-vous de toute la scène inclusive au maximum, à podcaster évidemment. Ce soir, nos invités sont Rhône et Alain Damasio. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Rhône, encore auréolé de son César de la meilleure musique pour la BO de La Nuit Venue, vous signez un nouvel album, Rhône and Friends, une variation sur votre disque précédent, l'instrumental Room with a View, avec cette fois les voix des artistes que vous avez invités, de Camélia Jordana à Dominique A, en passant par Yael Naïm et Alain Damasio, le romancier culte des science-fictions et politiques. Ça ne doit pas être la première fois que vous donnez de la voix sur un album électro, Alain Damasio, je le sais, parce que d'abord, vous connaissez la musique. Plus rock d'ailleurs, on y reviendra. Vous publiez Scarlett et Novak, avertissement à la jeunesse en forme de thriller sur l'aliénation au smartphone. Pas de rendez-vous ce soir avec Marion qui doit reposer son dos. Elle sera de retour demain. Voilà, vous savez à peu près tout maintenant. On entend tout, alors bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite avec votre choix playlist France Inter. Rhône est parmi les titres qui tournent sur l'antenne. Il n'y a pas que le vôtre. Vous avez choisi, mais on s'en doutait, Tourne autour de François and the Atlas Mountain. Un mot pour accompagner cette nomination, parce que François-Marie, vous le connaissez bien, il a travaillé sur un précédent album.
Ouais, François, c'est un super pote. Il avait fait ce morceau avec moi, Quitter la ville, sur l'album Créature.
En 2015.
Et c'est un gars génial. Complètement lunaire, ultra poétique, et super beau, magnifique. François, je l'avais perdu de vue pendant un moment, et puis là, on s'est retrouvé récemment au Théâtre du Châtelet, à l'occasion de la captation de...
De la captation du spectacle, ouais. Où vous jouiez en direct,
oui.
Qui s'appelait Room with a View, avec le Ballet de Marseille, sous la direction de La Horde, et de vous, puisque c'était un spectacle co-signé, ouais. Il était venu vous voir ?
Non, pardon, alors on est revenu au Châtelet, c'est vrai que c'est pile poil un an après ce spectacle Room with a View, qui a été arrêté par le confinement, pour capter, on a fait ces morceaux de cet album Rhône and Friends.
D'accord.
Ouais, on s'est tous retrouvés. François a passé une tête, bien qu'il ne soit pas sur l'album.
Mais non, c'est pour ça qu'il n'est pas sur l'album,
je
me demandais comment...
Il était dans le coin, il est passé, et on a pu rejouer ce morceau, Quitter la ville, qu'on n'avait pas fait depuis longtemps.
Tout de suite, on écoute Tourne autour sur France Inter.
Je te tourne toujours autour, même de loin. C'est étrange, même en plein jour, je ne retrouve pas le chemin. Je nous vois faire des détours, tu déjoues mes tours, ça ne fait rien. Tu ne perds rien pour attendre, silence, absence, demain. Je ne perds rien en retour, construis la tour qui de loin. Surveille et j'y séjourne, joue la distance, prince malin. Te ferai croire que se détourne l'histoire vers d'autres lointains. Il réfère, lire mes atouts aux reines aux chairs de Satan. Reviendrai croiser le fer de ton cœur de chienne au besoin. Même la cour. Chant des sirènes, ça me fait rien, ça me fait rien. Des reins sur le cœur. tourne autour, tournez autour du mois. Chaque heure que vienne le jour où plus rien ne te retient. Ce jour sera sans détour, droit au désir sans frein.
Pas tourner autour du pot, on va faire le point tous les trois. Rhône et Alain Damasio, d'abord, vous vous connaissez, en tout cas suffisamment pour collaborer encore une fois sur ce nouvel album, Rhône, puisque vous y donnez de la voix. Alain Damasio, on écoutera le titre tout à l'heure. La première fois, c'était en 2008, vos premières trouvailles, retrouvailles sur un album. C'était le premier EP, Bora, extrait.
Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi, uniquement si tu t'isoles. Tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire, isole. Isola, l'île, quoi. Tu crées ton île et tu l'évases au maximum, quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin, parce que ton univers sera vaste, quoi. Sera immense, sera énorme l'univers, quoi.
Donc ça veut dire qu'en 2008, vous vous connaissiez l'un l'autre. Il a une histoire d'ailleurs ce morceau, Alain Damasio, comment vous êtes retrouvé à performer sur un titre de Rhône, qui était tout petit à l'époque.
Ah mais il était... T'avais 19 ans je crois, la première fois qu'on se rencontre, c'est à 19 ans. C'était au tout début des années 2000.
Hein,
c'était en fait un projet complètement fou de film sur la zone du dehors... Mon premier roman.
Premier roman, ouais.
Et donc un ami de Ron, s'appelait Ludo, avait décidé de réaliser, peur de rien, quoi. Réaliser
le film du roman.
Le film du roman. Et Erwan travaillait dessus.
Erwan, voilà, donc c'est Ron.
La 3D, notamment du film. Et du coup, on se retrouvait dans une cave, dans une boîte de production dans le 18e. Pour travailler là-dessus.
Ouais.
Et moi, à l'époque, j'ai commencé à écrire L'Ordre du Contrevent, mon deuxième roman.
Deuxième roman, ouais.
Et j'avais, comme je m'isolais beaucoup encore, j'avais un dictaphone, et sur ce dictaphone, je faisais des...
Vous preniez des notes, une sorte de journal intime,
journal de travail. Je commentais des choses, etc. Et puis là, sur un texte que je relisais du premier roman, je commente le texte, et j'étais en phase d'automotivation très forte. Et c'était sur une des cassettes, des multiples cassettes que j'avais fait là-bas. Et ces cassettes, je les avais mis dans un petit appart. Oh, enfin, c'est une histoire de fou. Hein. Or, la fille qui s'appelait Marie-Lou, qui habitait cet appart, à qui je soulouais cet appart, sortait avec Ludo, le copain.
Le copain qui faisait le film, tout, ouais. D'accord.
Et du coup, écoute les cassettes. Ce que je lui dis, tu veux les écouter, c'est rigolo. Les fait écouter à Ludo, qui les fait écouter à Ron. Donc, ne laissez jamais les cassettes traîner.
Non, jamais. Surtout du côté de Ron.
Et Ron, à un moment donné, bah, après, il raconte la suite.
Alors, Ron, comment ça s'est retrouvé?
Ouais, mais c'est ça. Je me suis retrouvé avec ce document fascinant, quand même, parce que c'est vrai que moi, j'ai utilisé ce petit passage, parce que c'est lui qui me touchait vraiment, où on sent qu'Alain est traversé par une puissance, là, qui le dépasse. Et j'avais l'impression de ressentir ça parfois quand je commençais à faire de la musique. Il y avait des moments où, moi qui étais plutôt timide, comme ça, tout d'un coup, j'avais l'impression que la musique me donnait des ailes. Et je sais pas, il y a eu un écho quand j'ai entendu Alain dans ce passage, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres passages où il était plutôt, je sais pas, dans la critique, en disant c'est à chier ce chapitre, parce qu'il se...
Ah mais vraiment, vous commentez, vous êtes vraiment hyper oral en fait.
Ouais, bah, ouais, et puis c'est très important quand tu relis un texte de pouvoir te commenter à l'oral et de garder le commentaire, parce qu'au moment où tu vas reprendre le texte, tu sais exactement dans quel axe tu l'as fait. Donc c'était important pour moi de garder ça, quoi, ouais, c'était...
Vous étiez déjà un lecteur, Ron, d'Alain Damasio ?
Ouais, j'ai découvert Alain avec ce projet, quand Ludo m'a parlé de cette idée d'adapter le premier roman d'Alain, La Zone du Dehors, en film. Bah, j'ai lu le bouquin d'une traite, je me souviens, et ça m'a ouvert le crâne. J'ai adoré. Et puis, très peu de temps après, j'ai rencontré Alain, qui effectivement était assez fou pour croire en nous, parce qu'on était vraiment deux petits jeunes. Bon, on avait une petite boîte de prod derrière nous, mais c'était un projet tellement ambitieux, adapter un livre fou comme ça en cinéma. Donc l'idée, c'était d'en faire un film d'animation. C'était complètement dingue, mais Alain y croyait, nous aussi. C'était... Et puis surtout, moi, c'est une expérience. Enfin, ça reste une des expériences les plus dingues de ma vie, même si on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais voilà, en plus de humainement, c'était génial. Et puis, ça m'a permis de rencontrer Alain.
Et d'entrer dans cet univers. Alors, vous avez tous les deux la musique en commun. Alain Damasio, je ne pense pas que ça soit une culture électro au départ, plutôt une culture rock,
non,
c'est ça ?
Non, ouais, moi, c'est vraiment une culture, même, j'ai envie de dire, new wave au départ, quoi. C'était. ce que j'écoutais le plus. Donc c'était moi le début des années 80 quand j'étais ado, quoi. Et toute ma culture musicale était faite par mon frère, en fait, en réalité, quoi. Puisqu'on était dans la même, dans la même chambre. Et lui, il écoutait en boucle Cure, par exemple. On écoutait beaucoup de Cold Wave, de New Wave, This Mortal Coil, des choses comme ça, Cocteau Twins, les Cure, un peu de Joy Division. On écoutait les Berus aussi beaucoup. On allait voir les concerts des Berus Noirs. Donc moi, je les ai vus 3 fois en concert à l'époque. Voilà, donc c'était vraiment cette culture-là. C'était beaucoup plus une culture rock.
Vous étiez musicien aussi? Vous jouiez un
pas
petit peu?
Pas du tout. Non, mais absolument pas, quoi. C'était... Moi, ma mère jouait un petit peu, de tout petit peu comme ça, du piano. Mais moi, j'étais... Non, j'ai même pas pris de cours. J'ai dû prendre, une année de cours de piano, puis j'ai abandonné, ça me saoulait en fait. Mais...
Alors quand je dis que vous aviez la musique en commun dans des répertoires différents, pas vraiment, parce que vous pouvez vous retrouver sur un titre. Oxygène de Jean-Michel Jarre, qu'est-ce que ça représente pour vous, Rhône? Et ensuite, la même question pour Alain Damagio, parce que je sais que vous avez ça en commun, peut-être même sans le savoir.
Mais c'est drôle, moi, c'est mon premier disque. Et d'ailleurs, ce morceau-là en particulier, c'est un morceau que j'entends à la radio comme ça quand j'ai 7-8 ans. Et ça devient une obsession. Et je traîne ma mère au magasin de disques pour trouver ce disque. On savait même pas ce que c'était, donc j'ai dû chanter ce thème. J'ai dû chanter au vendeur qui m'a dit c'est Jean-Michel Jarre. Et donc, c'est un disque qui a beaucoup compté pour moi. Et. Ce qui est un peu fou, c'est que, voilà, des années après, 20 ans après, on me dit, 5 minutes avant un concert à l'Olympia, déjà je suis stressé avant de monter sur scène, mais là on me dit, il y a Jean-Michel Jarre dans la salle. Et voilà, je joue, et puis il vient me voir après le concert en me félicitant dans les loges, en me proposant de collaborer avec lui. Enfin, c'était fou cette histoire.
Et pour vous, Alain Damasio?
Moi, c'est fou, c'est vraiment ma mère, ça, pour le coup, qui me l'a fait découvrir. Il y en avait les grands vinyles.
La pochette.
Et la pochette magnifique, avec la terre, comme ça, pelée, enfin, la terre crâne, pelée, et ça m'avait vraiment marqué. Et pareil, on l'écoutait en boucle, mais on avait Equinox, Oxygène, etc. On était, moi, je me rappelle des concerts à Lyon, le concert qu'il avait fait à Lyon, les sons et lumières qu'il faisait, qui étaient complètement dingues, quoi. Puis moi, pour l'anecdote, c'est trop rigolo, parce que moi, je l'ai rencontré, mais il y a 2 mois, en fait. C'était l'émission 21 cm
avec Augustin Trapenard sur Canal Plus.
Et donc il fait des surprises dans l'émission, donc on va chez Augustin Trapenard et puis on discute, il nous montre sa bibliothèque, machin. Il y a quelqu'un qui va venir, un compositeur. Je pense que ça vous fera plaisir. J'ai un compositeur, moi je connais aucun compositeur, tu vois. Je me suis dit, moi. Et c'était Jean-Michel Jarre. Et il m'a dit qu'il adorait mes bouquins, qu'il avait tout lu.
Ça m'étonne pas.
Et moi, ça a fondé, pareil que Ron, ça a fondé, mon adolescence, quoi, ces titres. Donc, et c'est vrai que c'est la première musique électro que j'ai écoutée, quoi.
Alors on va revenir à ce nouvel album Rhône, c'est Rhône and Friends, il a déjà une histoire, au départ c'est un autre album, Room with a View, l'album précédent donc qui est la musique de votre spectacle avec la Horde et les danseurs et danseuses du ballet de Marseille. C'est donc au départ une musique instrumentale pour la scène, performée en direct. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous et sur votre musique d'avoir créé cette musique de ballet en étant vous-même présent?
Oh, c'était fou cette expérience collective avec le collectif La Horde et les 18 danseurs du Ballet National de Marseille. C'était dingue. C'était en plein d'étapes en plus. Parce que d'abord, il y avait cette espèce de gros brainstorming autour d'une table avec La Horde pendant 2 semaines, à savoir qu'est-ce qu'on va faire.
De quoi on va-t-on parler, ouais.
Voilà, parce que c'est vrai que le Théâtre du Châtelet m'a fait confiance et m'a offert. C'est la première fois qu'on me proposait comme ça 2 semaines de représentation. Normalement, je joue un concert quelque part et puis je pars jouer ailleurs. Et là, il fallait créer un spectacle qui tiennent sur la durée, finalement, parce qu'il fallait 2 semaines représenter le même spectacle.
C'était avant le confinement, hein. Quand on regarde le titre Room with a View, vraiment, on se dit qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la préméditation.
Oui, non, c'est fou. C'est vrai que maintenant, il résonne vraiment étrangement, ce spectacle. Les titres des morceaux, même, enfin, c'est vrai que Room with a View, Nouveau Monde, voilà, il y a plein de titres qui résonnent étrangement avec ce confinement. Mais c'est vrai que moi, voilà, je me disais quand je suis rentré au Théâtre du Châtelet pour la première fois, j'y avais jamais mis les pieds avant et j'ai vu cette scène énorme et je me suis dit, je vais pas faire un concert tout seul ici, c'est absurde. Et j'avais aussi envie de profiter de cet espace, de ce lieu. Enfin, c'était un luxe. J'avais comme une espèce de responsabilité à essayer de mettre un peu de sens et de fond dans mon travail, parce que souvent je fais des concerts Ouais, c'est la musique instrumentale. Et bon, c'est très beau en soi. Hein. Ça peut être ultra poétique et même un peu politique parfois de faire de la musique électronique à 5 heures du matin dans un club où tout le monde se lâche, surtout aujourd'hui. Là,
surtout aujourd'hui, de toute façon, c'est impossible.
Mais là, c'est vrai que j'avais envie de mettre un peu de sens et j'avais l'impression qu'il y avait des choses à raconter, à dire avec des danseurs. Et j'avais envie de travailler avec des danseurs. Et donc, j'ai contacté la Horde qui venait de prendre la tête du Ballet National de Marseille. Ouais. Et voilà, bah, j'ai appris plein de choses.
Un très jeune collectif, hein, c'était quand même une première hein, pour être à la tête d'un centre chorégraphique national en France.
Ils sont incroyables. Ouais.
Franchement, vous avez vu le spectacle
aussi. J'ai vu la répétition à Marseille, parce que je suis juste à côté, moi je suis à 10 minutes du Ballet National. J'ai pris une claque incroyable, c'est-à-dire que je suis descendu dans le sous-sol voir ça, et j'avais amené ma fille, ma fille, ça après c'était déclencheur pour elle. De faire la danse. Elle est sortie, elle a dit l'année prochaine, je veux faire 5 heures de danse, il faut que j'y aille, quoi. Il y avait vraiment eu un déclic, mais c'est d'une puissance, il y a une troupe de 20 danseurs avec une énergie de tous les pays du monde. Et puis, il y a un vrai thème, là, pour le coup.
Il y a un thème sur l'effondrement.
Sur l'effondrement, cette nouvelle génération, cette capacité à prendre la main.
Et d'ailleurs, ça a été très bien compris par la génération, parce que le Théâtre du Châtelet avait rajeuni son public de façon vraiment très convaincante.
Déjà, c'est vrai que moi, c'est marrant, parce que je tenais vachement à ce qu'Alain soit un des premiers spectateurs. C'est vrai qu'il est venu, le spectacle n'était même pas complètement fini, on était encore en train de le créer, finalement. Mais voilà, on l'a posé, on a mis Alain sur une chaise, il était revenu le voir en fait avec tes filles, je crois.
Je suis revenu avec mes filles et puis ils m'ont demandé un texte pour le livret. Je l'ai fait en 2 jours parce que c'était tellement puissant que ça, pour moi, c'était vraiment hyper parlant. C'était facile.
Alors ça, c'était Room with a View il y a quelque temps. Aujourd'hui, ça devient Rhone and Friends. Tout de suite, on écoute Waves of Devotion avec Georgia. Have you swam so far enough to breathe? Swimming in the ocean, kicking my feet in waves of devotion. Do Waves of Devotion, extrait de l'album Rhone and Friends, un extrait donc de cet album qui est plus ou moins une version augmentée de l'album instrumental, mais pas vraiment, parce qu'il y a aussi des inédits, d'ailleurs vous faites partie des inédits, Alain Damasio, augmenté de voix, et quelle voix, Camélia Jordana, Yael Naïm, Dominica, O2N, Mélissa Lavaux, on peut dire que vous êtes allé chercher dans pas mal de directions, hein, Rhone, jusqu'à vous, Alain Damasio, on entendra le titre encore tout à l'heure, mais justement, comment vous avez procédé, tous les deux, et même avec les autres, parce que tout le monde était confiné.
Oui, ben...
Donc c'était chacun chez soi.
Chacun chez soi, oui.
C'est pas facile à dire. Hein.
C'est vrai. Ben oui, c'était...
Derrière des écrans, ça a dû faire plaisir à Alain Damasio.
Ouais, c'est vrai. Non mais nous, on a réussi à anticiper, parce qu'on l'avait fait avant même le...
C'est le seul morceau qui s'est fait en studio avec Alain.
Ouais, en studio, on avait... Parce qu'au départ, c'était au moment où je sors Les Furtifs, mon roman Les Furtifs.
Troisième roman.
Voilà, on le sort avec un album composé par Yann Péchin.
Oui, puisque c'est un spectacle, on en parle.
Voilà, et l'idée qu'on avait depuis le début, c'était de mettre Rhone comme guest en featuring dans cet album. Et donc, je lui envoie une série de textes, il y avait plein de textes, et il me dit celui-là, qui était le texte érotique, le seul texte érotique.
Ah, mais celui-là, il y a dans l'album.
Voilà. D'accord. Donc il me dit, on va faire celui-là. Et il commence à composer, etc. Et puis il n'avait pas assez de temps pour mixer complètement le titre et tout ça. Et on a dit, bon, on va le garder pour l'album de... On a bien fait, parce que ça aurait été bizarre au milieu de l'album très rock. Et du coup, on l'a conservé.
Et c'est dans cet album-là. Ah oui, d'accord. Ouais. Une sorte de prêté pour un rendu.
Ouais, c'est ça.
Et donc, avec les autres, c'était simplement par je t'envoie des fichiers, tu me renvoies ta voix, etc. etc.
Ben, en fait, non, mais c'est vrai que c'est parti de ce morceau-là, en fait. Parce que, donc voilà, tournée annulée, tout ça, confinement. Et voilà, je regarde sur mon ordi, je me dis, je vais faire un peu de son. Et puis, je retombe sur ce morceau... qui était inachevé avec Alain, et je me dis, il faut le terminer, quoi. Et puis, en parallèle, c'est vrai que j'étais en contact avec Jenny Bess. On parlait beaucoup de faire de la musique ensemble. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu veux essayer de poser ta voix sur une instru de Room With A View? Et puis, elle a sauté sur Sophora Japonica.
Ouais.
Voilà, elle a posé un super beau texte en français. C'est la première
fois justement, et ça donne ça.
Tout ce qu'il faut voir. Tout ce qu'il faut voir. Plus d'importance, c'est pourri d'avance. Tu veux leur dire tout ça? Eh bien, plus encore. Mais les mots viennent pas.
Alors, ça tombe vraiment bien, Rhone, que vous parliez de Jenny Bess, parce que justement, je voulais qu'on entende cet extrait, je l'avais choisi. Parce que je ne sais pas si c'est l'effet Rhone ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle chante en français, alors que généralement, on a droit à de l'anglais.
Ben oui, effectivement, normalement, elle chante en anglais dans son groupe génial punk de filles savages, ouais. Elle chante en anglais. Et moi-même, je m'attendais à ce qu'elle m'envoie un a cappella en anglais, et puis c'est énorme surprise, elle m'envoie cette chanson française. Et elle me dit, je sais pas ce qui se passe, elle pensait même pas chanter un jour en français. Elle a eu envie de chanter en français. Et moi, je pensais ça comme une énorme preuve de confiance, de générosité. Enfin, j'ai pris ça comme un cadeau. Je trouvais ça super cool, quoi, qu'elle chante en français. Et très fort aussi. Ça m'a beaucoup touché.
Il y a eu d'autres surprises comme ça, justement.
Il y en a eu plein. C'est ça qui était génial. Bah, par exemple, avec O2N.
Ouvre l'album.
Ouais, qui ouvre l'album. Bah, il y a Alix et Jacques qui posent leur voix dessus. J'adore leur voix et tout ça. Moi. Et puis il y a cette petite surprise à la fin, c'est Mathia, le producteur d'O2N, qui relance mon thème, ma petite mélodie, mais avec la sauce O2N, quoi. Il y avait plein de petites surprises comme ça sur chaque morceau. Il y avait je pense à Laura Etchegoyen, donc qui chante l'orage. Et ben tout ce cœur qu'on entend à la fin, c'était une surprise. D'ailleurs, je me souviens de ce mail où elle me dit il y a une petite surprise à la fin, et puis je découvre cette espèce de cœur qu'elle déroule, qui n'était pas du tout prévu. J'ai dit c'est des cadeaux comme ça, incroyables.
Alain Damasio, vous écrivez en musique, vous? Avec de la musique,
j'écrivais avant musique et plus j'avance, moins j'écris en musique parce que ça perturbe mon rythme intérieur, donc ça bousille un peu la syntaxe, en tout cas ça la heurte, donc j'ai de moins en moins recours à la musique. Avant je m'en servais comme une espèce d'enveloppe atmosphérique un peu comme ça qui me donnait une espèce de dominant affectif sur les passages, et maintenant je suis plus en plus dans le silence, ouais, c'est marrant.
Je sais que vous êtes aussi scénariste pour des jeux vidéo.
Oui.
Ouais. Quel type de jeu?
J'ai fait
un néophyte. Hein.
J'ai fait un action-aventure, ce qu'on appelle un action-aventure, c'est-à-dire un jeu vidéo où tu progresses sur le long d'une histoire, en fait.
Uh-huh.
Ça s'appelait, Remember Me, ça s'appelait, c'était en 2013. Paris, 2084, la mémoire digitalisée, et puis on joue une hackeuse, un personnage de hacker, qui remixe la mémoire des gens. Voilà, c'était ça un peu la dynamique. Mais je fais de la série télé aussi, la série radio. Donc voilà, je
de tous les côtés.
Je scénarise plusieurs choses.
Les jeux vidéo, vous y jouez, Rhône?
Non, je suis largué un peu en jeux vidéo. Ouais.
Et composer la musique de jeux vidéo, parce qu'il y a une extraordinaire effervescence dans le répertoire de la musique de jeux vidéo. Vous regardez ce qui se fait?
Je regarde pas trop ce qui se fait. Honnêtement, je suis un peu largué dans ce domaine-là, mais par contre, ça m'intéresse. Enfin, je me dis que ça doit être une expérience assez dingue. On a un ami en commun, Raoul Barbet, qui fait des jeux vidéo et qui a utilisé ma musique sur ses jeux vidéo, mais j'ai pas fait grand-chose. Il a juste pris un titre qu'il a mis sur le jeu vidéo. D'ailleurs, c'était l'occasion pour moi de voir où on en était en jeu vidéo. J'ai pris une claque. Enfin, c'est assez dingue ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je suis un peu
largué. C'est Life is Strange,
ouais.
C'est génial, Life is Strange.
Mais du coup, ouais, j'ai vu comment il bossait. Par contre, je suis passé dans le studio de l'ingénieur du son et tout. Et c'est vrai que c'est un autre métier, enfin, c'est complètement fou, avec plein de contraintes très spéciales, très spécifiques et tout, mais que j'aimerais bien aborder un jour, pourquoi pas.
Ben pourquoi pas, quand on a fait de la musique de film, on peut aussi faire de la musique de jeux vidéo. Petit flashback.
J'aime regarder les...
Alors, le César de la musique originale est attribué à Rhône pour La Nuit Venue.
Bonsoir, moi je suis très ému, ça va être difficile parce que je suis un peu timide. Mais, enchanté Alain. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la musique de ce film. Il faut que je remercie évidemment Frédéric Farrucci, le réalisateur qui m'a fait confiance, qui m'a proposé, c'est un super cadeau pour un musicien de pouvoir faire la musique sur un si beau film. Merci à Camilla Giordana, à Guang Guo. Vous avez été super inspirant pour composer.
Laurent Voulzy aussi.
Laurent Voulzy aussi.
C'est Alain Souchon qui vous remet le César de la meilleure musique pour la bande originale de La Nuit Venue, le film de Frédéric Farrucci. Vous avez depuis d'ailleurs développé un titre, on l'a écouté ici, c'était Marion qui vous avait eu au téléphone, Marion Guilbault, avec Camilla Giordana qui joue dans le film. Cette soirée qui a suscité pas mal de polémiques, vous l'avez vécu comment? En étant dans la salle, puis ensuite sur scène, parce que je sais qu'on vous a reproché de n'avoir pas parlé au nom des musiciens qui aujourd'hui ne peuvent pas performer.
Ouais, j'ai entendu ça, c'est vrai. Bon, moi, je comprends en fait. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu un petit moment de honte en me disant putain, c'est vrai que j'avais tout d'un coup la possibilité de prendre la parole sur ces thèmes-là.
En même temps, tout le monde a pris la parole pendant toute la soirée, donc.
C'est vrai que moi, je trouvais ça un peu chiant que, comme je suis musicien, c'était moi qui devais représenter toute la caste professionnelle de la musique et tout ça. Je veux dire, moi, je suis aussi très touché par le sort des infirmières en ce moment, du monde de plein d'autres choses. Donc, c'était bizarre ce truc où il fallait que je parle de la musique à tout prix. Puis, de toute manière, j'ai perdu tous mes moyens sur scène. C'est aussi simple que ça. Je sais pas.
Il y a des nouvelles commandes ensuite, quand on a eu donc un César pour une musique de film, même si, en fait, cette musique avait été déjà récompensée au Festival de Saint-Jean-de-Luz et puis au Festival de La Baule.
Oui.
Donc c'était pas la première fois, vous étiez presque rodé pour avoir un prix. Il y a eu des commandes depuis ou l'effet César, c'est-à-dire que tout s'arrête?
Non, en fait, c'est vrai que je sens qu'il y a une porte qui s'ouvre un petit peu parce qu'il y a pas mal de propositions. Je pense que tout simplement ça a fait connaître mon travail à des réalisateurs qui peut-être n'avaient jamais entendu parler de moi auparavant et qui ont dû jeter une oreille depuis, je sais pas, mais oui, ça ouvre des portes, c'est sûr et c'est super parce que moi j'adore le cinéma et j'ai envie de faire des musiques de films encore, donc.
Il paraît que vous avez un projet déjà, déjà fait, mais vous ne pouvez toujours pas en parler.
Je sais pas trop. Je crois qu'il faut pas trop s'étaler dessus, mais j'ai l'impression que c'est l'info est déjà sur Internet.
Donc vous pouvez le dire.
C'est un de mes réalisateurs, un des réalisateurs avec qui je rêvais de travailler. En fait, c'est Jacques Audiard qui m'a contacté là pour faire la musique de son nouveau film. Et c'est fou.
C'est fait ou pas?
C'est presque dans la boîte.
Ah d'accord, ça y est. Rhône et Alain Damasio, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Mais d'abord, on va pousser la porte du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour un moment de live 100% France Inter. Avec un extrait du concert triple affiche, Raphaël, Feu Chatterton et Arnaud Robotini. Je crois, Rhône, que vous connaissez absolument tout le monde.
Oui.
Je vous propose de réécouter la rencontre au sommet entre Feu Chatterton et Arnaud Robotini, qui a réalisé leur dernier album. Le titre est un marqueur dans l'histoire de l'électro. Vous comme moi, Alain Damasio, on sait ce que c'est. C'est la reprise de Trans Europe Express de Kraftwerk, une exclusivité France Inter.
Êtes-vous prêt à embarquer à bord du Trans Europe Express, auditeur de France Inter ?
Champs-Élysées, Big Paris in the morning.
Trans Europe Express.
Et Paris au matin, en T,
Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Connection T-E-E
Trans Europe Express. Trans Europe Express.
À Vienne s'asseoir dans un café de nuit. Connexion directe en T-E-E.
Trans Europe Express. Trans Europe Express.
From station to station, back to the North City. Meet Iggy Pop and David Bowie.
Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Trans
Europe Express. Trans Europe Express.
Thank you.
Le live entre Feu Chatterton et Arnaud Robotini, extrait du concert triple affiche avec Raphaël. L'occasion d'annoncer le prochain concert, ce sera mercredi avec Eddie Depreto et Arlo Parks, présenté par Rebecca Manzoni sur France Inter, bien sûr.
Tu pouvais, tu pouvais, tu pouvais.
Côté club.
Moi, c'est vrai, j'exagère. J'exagère.
Sur France Inter.
C'est ma façon à moi de vomir. C'est ma façon à moi de vomir l'ingérable.
Ça, c'est une prise de parole. Qu'est-ce qu'on entend là, Alain Damasio?
Bah là, on est en plein dans le teaser du concert Entrée dans la couleur qu'on est en train d'espérer refaire tourner avec Yann Péchin. Donc le
concert rock.
Concert rock avec Yann, qui est fameux guitariste de Bachung, mais pas seulement, hein, puisqu'il a
Brigitte
été
Fontaine.
Brigitte Fontaine. Jacques Higelin.
C'est votre famille musicale, tout ça? Miossec, c'est votre famille musicale, tout ça?
Miossec, j'ai pas mal écouté au moment où j'écrivais La Horde aussi. J'aime bien sa façon de chanter un peu hors des mesures, ce côté très viscéral. J'aime bien Miossec, quand même.
C'était la première fois que vous montiez sur scène pour performer?
Ouais. Ça a été, je sais pas, toujours pas pourquoi je l'ai fait, en fait. Enfin, la première, ça a été justement avec Ron à la Philharmonie. C'était quoi? C'était début 2017. Où Ron m'a fait un cadeau empoisonné, en fait. C'est-à-dire qu'il m'a dit tu veux venir sur la scène de la Philharmonie? Je fais bah oui, bien sûr. Et en fait, j'ai interprété 4 titres sur scène.
Ah ouais, c'est quelque chose. Un titre, c'est quelque chose, mais 4 titres, c'est vraiment une
quatre titres, une présence, dont bras vocal, quoi, qui était extrêmement attendu pour le coup.
Ouais.
Et donc c'était une grosse pression. Ouais, c'était quand même une grosse pression. Puis il y avait 3 textes originaux, donc c'était. Mais bon, j'y suis allé. Mais je me souviendrai toujours d'un moment, peut-être un des moments de stress les plus intenses de ma vie. C'est le moment où justement on va jouer Bora Vocal, et on avait décidé avec Ron de faire un truc assez sympa. C'est-à-dire qu'il commençait le titre comme il l'a habituellement, et ensuite il rembobinait le titre et il relançait la musique. Et là, l'éclairage arrivait sur moi. Et on se rendait compte que c'était le vrai Alain Damasio qui était là, qui n'avait jamais été là sur scène, puisque le titre, tu l'as joué je ne sais pas combien de fois.
Bien sûr, ouais.
Et là, tout d'un coup, j'entends les gens gueuler. Damasio,
une star
et
du rock.
Je sens la pression monter, quoi. Et là, c'est un moment assez difficile.
Et alors, c'est une expérience exaltante d'être sur une scène.
Je pense que ça m'a donné envie après d'y aller aussi avec Yann Péchin. Mais au début, c'était plus une sorte de lecture musicalisée qu'on faisait pendant toute la tournée des Furtifs, où j'étais en librairie, en festival, etc. Et après, quand vraiment le tourneur m'a dit, écoute, est-ce que tu as envie d'en faire vraiment un spectacle? J'ai dit, d'accord, mais on reprend tout à zéro. Alors on reprend tout à zéro, on en fait un vrai spectacle. C'est-à-dire que c'est pas une lecture. C'est-à-dire que j'apprends tous les textes par cœur, et Dieu sait si les textes ils sont relativement longs et complexes.
On peut vous faire confiance.
Et du coup, j'ai tout appris par cœur. J'ai pris 2 metteurs en scène, une pour l'interprétation et toute la conduite du concert au niveau des textes, et l'autre vraiment pour la scénographie, l'éclairage et cette chose que je ne comprenais pas, que je savais pas avant, c'est-à-dire les transitions entre les morceaux. Et ça, j'ai découvert ce truc-là.
Comment on passe de l'un à l'autre?
Et
alors,
ouais,
comment
parce
vous
que
faites?
Moi, j'avais fait les 12 titres, j'étais content, etc. Mais il m'a dit, mais attends, il y a une continuité. Qu'est-ce que tu fais entre les morceaux? Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? Et donc, ça a été super. Ouais, je découvre un nouveau métier. Voilà, je me considère comme un grand débutant encore. Hein, je m'éclate. Ouais.
Vous l'avez vu sur scène, Ron?
Non.
Pas encore, à la Philharmonie, quand même.
Oui, à la Philharmonie, d'accord, pour vous, mais pas pour lui, tout ça. Alain Bachung, vous l'avez rencontré, Alain Damasio?
Non, j'aurais adoré. Non, je ne l'ai pas rencontré de son vivant.
Yann Péchin vous en parle, j'imagine, beaucoup.
Bah, il m'en parle. Et quand il en parle, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il est. On sent que ça a vraiment marqué sa vie, que c'est quelque chose qui lui a laissé une trace indélébile. C'est passionnant de l'entendre en parler, hein, d'ailleurs. La capacité qu'il a à demander à ses musiciens de refaire chaque jour des choses différentes, quoi. Moi, il m'a raconté, je raconte juste ça parce que c'est vraiment un moment que je trouve très fort. Et ça marque, je trouve, quand t'es artiste. Il répète pour un concert et, il joue. Puis, je sais pas, admettons, 4e concert, il trouve un super riff de guitare. Un morceau, Bachung le regarde, il dit, fabuleux, etc. Et le lendemain, il avait adoré ce riff, donc Yann, il refait le même riff. Et là, il y a Bachung qui le regarde, alors de dire, mais tu vas quand même pas nous resservir le même riff chaque soir, quoi. Tu vois? Et en fait, il lui demandait à chaque fois de trouver des choses différentes, etc. Et il a été choisi, Yann Péchin, sur casting par Bachung. Tu passais une journée avec Bachung. Et il choisissait ses guitaristes comme ça. Et il leur demandait absolument pas d'avoir la capacité à refaire des morceaux et à jouer les notes. Ça, pour lui, c'est l'évidence. Mais la capacité à improviser, la capacité à se renouveler, la capacité à réinventer. Et ça, j'ai trouvé que c'était une sacrée leçon. C'est impressionnant.
J'espère que vous faites la même chose avec lui.
Et ben, en
tu
tout cas.
Tu vas pas nous refaire la même chose que
lui. Ouais, lui, il fait la même chose avec moi. C'est ouais. plutôt ça. C'est-à-dire que lui, il improvise à chaque fois. Il se renouvelle énormément. Donc, je suis obligé de l'écouter beaucoup sur scène. Moi, malheureusement, je réinvente pas les textes. Mais quand même, au rappel, je fais des choses différentes. Voilà. Alors, un jour, j'improviserai complètement aussi comme lui. Hein.
C'est vrai?
Ah, j'adorerais. J'ai dit à la metteur en scène, vraiment, mon horizon, ça serait d'arriver au moment où tu peux vraiment improviser comme un musicien improvise. C'est-à-dire improviser un texte poétique, avec des assonances, des allitérations, avec un vrai déboulé, un vrai flux. Je me dis, ça serait ça le Graal pour sur scène. Mais bon,
vous entraînez?
J'en suis loin. Je le fais des fois tout seul chez moi.
Avec le dictaphone.
Avec le dictaphone, mais c'est vrai. Hein. Moi, je vais lire et je pars sur des choses. Mais c'est un entraînement, bien sûr. Tu deviens pas improvisateur comme ça. Hein. Bon, un jour, peut-être, je ferai sur un concert de Ron.
Ou même ici sur France Inter. Tout de suite, on va vous écouter. Tout de suite, on va vous écouter dans ce titre, justement, extrait de Room with a View, qui est d'ailleurs un titre qui est très spécial, puisqu'il est au centre exactement de l'album. Et en plus, c'est un inédit, c'est-à-dire que ce n'est pas une reprise de Room with a View. Donc, il a vraiment un statut à part. Pourquoi l'avoir mis au centre comme une sorte de pivot, Ron?
Le 1, vous voulez dire?
Ouais, le titre avec Alain Damasio.
Je pense, alors je saurais pas dire, j'ai pas décidé de le mettre au centre comme ça, c'est plus dans la... C'est vrai qu'une fois que j'avais tous les morceaux, après c'est une espèce de puzzle, il faut essayer de trouver
une transition,
une continuité, essayer de faire des transitions, voilà, voir comment dérouler tout ça, et ça, il me semblait que sa place était bien ici, ouais.
Au centre.
Au centre, bien au chaud,
bien sûr.
Lové.
1, c'est le titre extrait de Ronan Friends avec Alain Damasio et Mood. Très « Je t'aime, moi non plus » ou alors « La décadence », Gainsbourg, Birkin, c'est comme ça qu'il vous a dirigé, Alain Damasio, Ron ?
Non,
ouais, tu parles.
C'est marrant, beaucoup de gens le ramènent à ça. Moi, je suis très étonné parce que les duos musicaux n'ont pas démarré avec Gainsbourg.
Non, hein.
C'est quelque
entendu.
Chose de très ancien.
Non, mais quelque chose dans le parler. Dans le parler aussi, il y a le parler.
À marquer, à définir. Mais j'adore Gainsbourg. Hein. Oui, c'est une vraie influence et c'est quelque chose que.
Ron.
Non, mais c'est sûr qu'on avait, Moi, je me souviens qu'on en a parlé de Gainsbourg. Dès la Philharmonie, je me souviens quand il y avait tout un travail sur comment poser la voix d'Alain sur ma musique. Il y avait toute une question aussi sur comme Alain, c'est un écrivain à la base. On réfléchissait sur comment utiliser les mots. Est-ce qu'il en faut moins? Est-ce qu'il faut? Et je me souviens qu'on parlait de Gainsbourg parfois comme référence. Toi, tu me parlais souvent de L'homme à la tête de chou.
Bah, oui.
Moi, j'avais. Mais voilà, là, je dirais que c'est vrai qu'on n'a pas fait ce morceau en pensant à lui, mais c'est une grosse. C'est une grosse influence inconsciente. Il est très présent. Et c'est sûr.
C'est presque l'inconscient du morceau. Qui n'a rien à voir avec une reprise, mais comme s'il y avait quelque chose, en effet, de l'inconscient de Gainsbourg dans ce titre. Alain Damasio, alors, entre autres, puisque vous signez plein de choses, vous signez un court texte destiné à la jeunesse, mais je le conseille vraiment à toutes et à tous, Scarlett et Novak. L'histoire, en quelques mots, c'est Novak, il est coursé par deux types, il fuit, il est guidé par Scarlett, c'est la voix de son bright phone. Vous expliquez ce qu'est un bright phone ?
Ah bah c'est un smart un peu plus bright, c'est un smart un peu plus brillant, c'est la génération suivante. C'est ce qu'on va avoir dans 5-10 ans.
Scarlett donc lui donne des informations en temps réel sur le profil de ses courseurs, le type de porno qu'il mate, donc du porno gay. Donc ça affole complètement Novak. Ça lui donne aussi des indications sur comment leur échapper, sur son rythme cardiaque. Mais en fait, cette aide serait un leurre. Il existe un danger, en effet, mais il est peut-être dans son rapport à cet instrument. Un texte pour la jeunesse, c'est la première fois, alors même que ce texte, au départ, vous l'aviez déjà écrit, destiné à un autre public. Pourquoi fallait-il que ce soit pour la jeunesse, pour vos enfants ?
Déjà, il y a le phénomène que j'affronte aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai deux filles qui ont 10 et 13 ans, et la grande fait partie de deux élèves dans sa classe de 4e qui n'ont pas de téléphone portable, donc c'est... La pression sociale, elle est
énorme,
colossale, énorme, harassante même. Et du coup, c'est compliqué de lui expliquer pourquoi elle devra attendre la classe de seconde pour... Mais avec ma femme, on est très très ferme et droit dans nos bottes là-dessus. Elle comprend, mais c'est très compliqué. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est un outil extraordinaire d'ouverture, d'émancipation. Le smartphone, ça donne accès, ne serait-ce qu'à ça, à toutes les musiques du monde. Ça donne accès à un nombre de films incalculable, à la culture. C'est une bibliothèque en ligne, c'est tout ce que tu veux. Et en même temps, c'est un outil d'addiction aussi, tout aussi performant, tout aussi terrible, puisque malheureusement, les GAFAM qui ont mis en place ces plateformes ont maximisé le degré de dépendance qu'on a. Ils ont mis des ingénieurs, des comportementalistes, ils ont fait travailler des behavioristes même dessus pour que tu passes le maximum de temps sur ces applis et que tu t'en sortes pas, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut travailler contre cette dépendance, contre cette espèce d'auto-aliénation. Et je trouve que donner ce texte à des ados, ça peut être que précieux. C'est un peu subversif par rapport à cette espèce de technophilie ambiante qu'on a. Mais j'aime bien inverser cette espèce de sentiment qu'ils ont, que c'est magnifique le smartphone, et ils voient absolument pas les défauts, ou absolument pas l'espèce de piège qu'il y a derrière. Donc j'assimile la graine en espérant que
vous en avez des
choses. Non, j'en ai pas.
Ouais, ah oui, vous
pas,
non plus.
Ouais, j'en ai jamais eu, j'en ai pas ni téléphone portable, ni smartphone, ni rien.
Donc pour vous joindre, comment on fait ?
On appelle le fixe ou on envoie un mail. Voilà, moi je passe beaucoup par l'écrit, du coup par le mail. Non, je tiens, c'est difficile, c'est de plus en plus difficile parce qu'on fait tout pour que ça devienne quasiment un outil de certification d'identité.
Bien sûr, de traçabilité.
Traçabilité, ne serait-ce qu'au niveau bancaire aussi. Donc ça va devenir, je vais voir combien de temps je vais pouvoir tenir sans être complètement handicapé. Déjà, quand ils ont supprimé les cabines, ça a été un grand choc pour moi. Tout le monde a regardé ça avec une indifférence totale, alors que pour moi, c'était vraiment un virage dans ma vie parce que je pouvais plus appeler des gares notamment. Donc voilà, mais j'ai continué à mener mon combat solitaire et low-tech là-dessus. Ouais.
Vous comprenez ce combat, Ron ?
Ouais, moi je trouve ça fascinant, je respecte à fond, c'est marrant parce que j'ai essayé de le faire en fait, j'ai tenu une année.
Une année quand même.
Ouais,
c'est pas mal.
Mais attends, c'est énorme. Une année,
c'est énorme. Ouais.
C'est vrai, donc j'ai pu voir. Enfin, moi c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'au bout d'un moment, ça me manquait pas du tout. C'était même assez agréable. Et puis, ce qui est marrant, c'est effectivement la réaction des gens autour qui hallucinent. Quand tu leur dis que t'as pas de portable et tout, mais
alors pourquoi il a fallu en reprendre un ?
C'est vrai que moi, je sais pas, pour le travail, pour plein de choses. En fait, je m'en sers beaucoup. C'est un outil dont je me sers beaucoup aujourd'hui. Mais
vous savez, les dictaphones ont du bon aussi.
Je les ai gardés. Hein,
c'est clair. C'est,
oui. Mais pour écouter de la musique, j'imagine.
Voilà. Oui, en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est une espèce de couteau suisse. Enfin, je peux écouter la musique, je peux en enregistrer, je peux même en faire. C'est, il y a même maintenant des petits outils pour poser des idées musicales et tout ça. Donc c'est une espèce de couteau suisse. Voilà. Là, j'ai presque honte d'en parler à côté d'Alain.
Non, je comprends bien. Alain, vous signez depuis quelques années, même s'il n'y a eu que 3 romans, mais on peut dire que ce sont des best-sellers parce que à partir d'un certain nombre de lecteurs, on est un best-seller, il n'y a aucune honte à avoir à cela. Le fait d'avoir du succès, et j'imagine beaucoup d'argent, parce que quand même, il y a eu énormément de lecteurs, est-ce que c'est difficile à appréhender quand on a un rôle critique ou des positions engagées comme les vôtres?
Bien sûr, ouais, c'est difficile. C'est difficile, même si là, l'argent, je vais l'utiliser vraiment pour faire quelque chose de collectif, quoi. C'est l'argent que je donne, j'ai envie de dire, puisque on va monter. Je peux pas trop en parler encore parce que c'est tout début, mais
donc il y a un projet quand même.
Ouais, il y a un projet. Il y a une sorte, ça s'appelle une sorte de zone autogouvernée qu'on est en train de monter. Voilà.
Du côté de Marseille.
Je dis pas où c'est parce qu'on veut éviter pour l'instant. Mais voilà, c'est plutôt en montagne. Et ça servira justement à faire une école des vivants. Ça servira à développer du maraîchage, l'élevage de chevaux, à faire des résidences d'artistes. Donc voilà, cet argent, immédiatement, j'ai envie de dire, je m'en suis débarrassé parce que j'ai pas envie d'avoir de matelas derrière. Je trouve que d'avoir un matelas financier derrière soi, c'est ce que j'appelle moi la position vraiment bourgeoise et je trouve que ça change trop la vie. Tu t'endors et tu as quelque chose de... Voilà, et puis après, bah ouais, c'est toujours compliqué de se retrouver dans une situation qui est pas une situation de combat. C'est-à-dire que tu partages pas la situation de gens qui sont vraiment authentiquement dans la merde. Donc tu la partages intellectuellement, tu la partages parce que c'est tes valeurs, tu la partages. Mais il faut être capable de garder cette capacité à savoir qu'il y a d'autres modes de vie que le tien, qui est aujourd'hui, moi j'ai un mode de vie hyper privilégié, voilà. C'est un mode de vie, ne serait-ce que des choses très simples, comme prendre le taxi, quoi. Maintenant, ça y est, c'est devenu une habitude de prendre le taxi, parce qu'on me paye un taxi pour venir à Radio France, on va m'en payer un pour rentrer, etc. Et avant, bah, comme tout le monde, je prenais le métro, j'étais dans le... Et c'est tout bête, mais cette espèce de bulle, ce cocon dans lequel tu es, individuel, qui est le taxi, le fait que tu payes même pas ton taxi, enfin, tu vois, il y a tout un ensemble de trucs que ça... Ça paraît dérisoire, mais en fait, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans le sentiment de confort, dans la distance que ça te met vis-à-vis de la situation des gens.
Et justement, est-ce que ça peut changer, notamment, la nature de vos positions critiques et les textes à venir?
Non, oui, ça changera au sens où je peux faire une critique de la bourgeoisie beaucoup plus forte, beaucoup plus féroce, parce que elle me traverse. Moi, je dis toujours, on écrit d'autant mieux qu'on est traversé par les enjeux qu'on aborde, quoi. Voilà. Donc ça, les enjeux de l'embourgeoisement, par exemple, c'est un enjeu que je pense que je peux traiter maintenant avec beaucoup plus de pertinence et de férocité, parce que c'est un enjeu qui me travaille et qui m'énerve et qui m'agace et sur lequel je me bats. Donc, je pense que, voilà, il faut se servir de ce qu'on vit, quand même.
Et à l'origine, vous veniez de quel milieu, Alain Damasio?
Moi, je venais d'un milieu qui était un milieu, mon père était carrossier. Voilà. Donc c'était vraiment un manuel, c'est un artisan et ma mère était prof d'anglais. Voilà. Donc c'était un milieu, un peu mélangé, je pense que j'ai hérité de ça, un côté très physique, très viscéral lié à mon père, et un côté intello lié à ma mère qui était agrégée d'anglais, qui me parlait de son agrégé d'anglais, et des textes de Faulkner, etc. Et du coup, ça m'a fait une espèce de croisement. J'ai eu de la chance, en fait. C'est très différent, mes deux parents, mais c'était précieux. Ouais.
Donc l'une écoutait Oxygène, et l'autre, elle écoutait quoi? Il écoutait quoi, votre père? Il écoutait des carrossiers?
Non, mon père écoutait Gainsbourg. Mon père, qui écoutait très peu de musique, écoutait Gainsbourg. C'est lui qui nous a donné le goût de Gainsbourg. Et ma mère, c'était Oxygène, et c'était aussi le blues, hein, beaucoup le blues. Ouais.
Eh bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci Alain Damasio. Je rappelle la sortie de Scarlett et Novak chez Rajo. Les Furtifs est disponible en poche Gallimard. Côté scène, il y a une date prévue cet automne au Trianon, paraît-il le 6 octobre,
ah oui,
pour le concert rock fiction poétique autour des Furtifs avec Yann Péchin. Merci à vous, Rhône.
Merci.
Le nouvel album s'appelle Rhône and Friends et je ne sais pas si vous allez reprendre la tournée de Room with a View avec le Ballet de Marseille. C'est prévu?
C'est prévu, mais on ne sait pas exactement
quand. Exactement. Côté club, vous connaissez l'équipe. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Antoine Gomez, programmation Virginie Rouzic, Alexis Goyer et Marion Guilbault qui nous rejoindra demain. J'espère que ça ira mieux. Quant à Muriel Pérez, eh bien, elle reste fidèle aux playlists. Demain, on a rendez-vous avec William Scheller qui se livre dans une autobiographie, William, et ça nous rend heureux. Allez, Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Allez, à demain.
On commence du TP? Côté.
Oui.
Club.
Bye. Bye.